18h00 à Niamey, l'heure du journal en français de Studio Kalangou dans une présentation de Ataher Rafika. À la une, nous avons à Diffa des attaques, enlèvements et assassinats des civils par les groupes armés non étatiques et aussi lourds en mars 2019 qu'entre janvier et décembre 2018. Les détails dans un instant. Le sit-in prévu aujourd'hui par les étudiants de l'Université d'Ottawa est annulé. Les explications du secrétaire général du syndicat étudiant dans ce journal. Les Nigériens font beaucoup recours à la médecine traditionnelle pour soigner diverses maladies. Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. Bonsoir chers auditeurs et merci de suivre les programmes du Studio Kalangou ce vendredi 5 avril 2019. La région de Diffa est actuellement affectée par une détérioration rapide de la situation sécuritaire suite aux activités des groupes armés non étatiques dans le bassin du lac Tchad. Explication avec Mokhtar Hamadou.
21 attaques contre des civils et les forces militaires ont été enregistrées dans la région en mars 2019 avec un bilan de 12 enlèvements et 88 morts parmi les civils selon le bulletin publié jeudi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad. À titre de comparaison, le nombre total de civils tués par les attaques des groupes armés non étatiques entre janvier et décembre 2018 s'élève à 107 personnes. Les dernières attaques à Ngangam, El Hadj Maynari, Boula Kiassa de la commune de Geskerou et à Dirou et Koublé de la commune de Chetimari ont provoqué un mouvement de 18 480 personnes en direction du centre urbain de Diffa et de quelques autres gros villages de la région selon les Nations Unies.
En 4 jours, au moins 30 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans la région de Diffa. Environ 380 maisons ont été incendiées ou détruites. Selon un communiqué de Médecins sans frontières qui vient de nous parvenir, les derniers incidents survenus à Ngingimi et à d'autres endroits de Diffa entre le 23 et le 26 mars ont laissé des traces de destruction et des traumatismes psychologiques. Ajouté à cela, l'aggravation du conflit autour du lac Tchad occasionne des milliers de déplacés. En outre, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader puisque les besoins d'assistance des populations dépassent les capacités des acteurs de secours. La commune rurale de Kao dans le département de Tchintabraden, région de Tawa, est confrontée à l'insécurité résiduelle, braquage de motos et autres vols d'animaux. Afin d'agir, les autorités communales de Kao ont créé un comité de vigilance. Écoutons les explications de Hamada Abdoulaye Gossman, maire de la commune rurale de Kao, interrogé par Alamine Washar.
Nous sommes un peu sur la frontière dangereuse, qui a des difficultés d'insécurité. Donc voilà pourquoi on sensibilise chaque fois les communautés et la population pour nous informer du moindre détail par rapport à cet aspect d'insécurité. Dieu merci, avec la population, nous collaborons suffisamment. Nous avons des comités de vigilance au niveau de presque tous les villages qui nous renseignent sur ce qui se passe dans toutes les localités et en temps opportun. La communication est très bonne, compte tenu même de l'étendue de la superficie de la commune qui fait 3 320 km². On n'a pas de poste militaire. C'est vraiment une difficulté. Nous lançons un appel à que l'État trouve des moyens pour créer des pelotons fixes pour pouvoir sécuriser cette zone qui a un relief très accidenté. On rencontre des petits problèmes de braquage de motos, des vols d'animaux. Et vraiment une insécurité résiduelle au niveau de certains aspects. Ça, du coup, il y a cette insécurité-là. Mais Dieu merci, tantôt je le disais, avec la collaboration avec les populations, cet aspect aussi tend vers la fin.
C'était le maire de la commune rurale de Kao. 55 ménages, 62 hangars de commerce et un magasin en paillotte contenant divers articles. C'est le bilan des dégâts causés par l'incendie mercredi dans les quartiers Cameroun de Ngingimi, dans la région de Diffa. Le quartier Cameroun abrite un nombre important de réfugiés de cette région du lac Tchad. Interrogé par Studio Kalangou, Fougou Boukar, le préfet de Ngingimi, a précisé qu'un court-circuit est à l'origine de cet incendie limité aux dégâts matériels. Le sit-in prévu ce vendredi par les étudiants à l'Université d'Ottawa n'a pas eu lieu. Certains points de revendication des étudiants ont été pris en charge par l'autorité de tutelle. Écoutons les explications d'Alpha Soumana Maman, secrétaire général du syndicat étudiant, au micro d'Idrissa Adam.
Nous sommes...
Nous n'avons pas pu faire le sit-in que nous avons prévu aujourd'hui parce que nous avons eu un début de solution à notre plateforme revendicative. Pour preuve, nous avons demandé la réparation d'une voie au sein de l'université devenue impraticable. Hier, ils ont commencé à mener des voyages de latérite pour sa réparation. Deuxièmement, concernant les bourses, avant-hier, le secrétaire chargé des affaires sociales m'a informé que le ministère l'a appelé pour qu'il voie ensemble comment désintéresser les étudiants bénéficiaires. Aussi, nous avons décidé de s'asseoir à tout mouvement pour permettre aux négociations d'aboutir.
Les élèves des lycées et collèges de la région de Niamey sont en grève depuis hier pour exiger l'annulation de la mesure du ministère de tutelle interdisant l'organisation des cours de soutien rémunérés dans les établissements publics et privés. Adibis Alio, secrétaire général de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, au micro d'Assoumana China.
Aujourd'hui, si on fait le constat, les cours de soutien là, c'est ça qui avantage beaucoup de nos militants. Et surtout les candidats libres qui ils ont épuisé leur scolarité dans les écoles publiques et que leurs parents n'ont pas les moyens pour s'inscrire dans les écoles privées. C'est à travers ces cours de soutien qu'ils préparent leur examen. Il y a des écoles qui les cours de soutien c'est 2000 francs, 2500. Moi je suppose que malgré que nous sommes des fils de pauvres, nos parents se sacrifient pour avoir les 2000 francs pour nous inscrire pour faire les cours de soutien. Aujourd'hui, un enseignant ne peut pas organiser un cours privé chez lui, parce que de là, les gens vont s'optionner. Mais si c'est dans une école, on sait que c'est un lieu où les gens sont venus apprendre. En tout cas, nous demandons à ces autorités de revenir à des meilleurs sentiments. Et c'est la seule façon d'amener la calme dans la région de Niamey. Nous allons continuer la lutte jusqu'à satisfaction.
Dans le département de Kantié, région de Zender, des centaines d'élèves, notamment des classes de 6e, abandonnent l'école. C'est à cause de la longue distance qu'ils parcourent à la marche pour rallier domicile et école. Cette situation préoccupe Abdou Abata Maman Sabiou, directeur départemental des enseignements secondaires de Kantié, qui s'exprime au micro de Habou Sarki Saleh.
Nous avons demandé à tous les directeurs des établissements scolaires de Matamé de nous fournir les notes d'évaluation du premier semestre. Cela nous a permis de constater qu'il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent l'école, notamment les élèves du niveau 6e. Un directeur d'une école m'a dit qu'il y a plus de 100 élèves de 6e qui ne viennent plus. L'enquête que nous avons menée nous a permis de comprendre qu'il s'agit des enfants qui quittent leur village pour venir à l'école. Ils parcourent chaque jour une distance de 8 à 12 km du lundi au samedi. Le problème est que ces enfants ne peuvent pas trouver de tuteur dans le village où se trouve l'école. L'élève qui arrive à l'école après avoir parcouru 10 km, vraiment, il n'a pas l'esprit sur ce qu'on lui apprend. Sa préoccupation, c'est de se reposer d'abord. Vraiment, c'est un problème auquel on doit trouver des solutions.
Lundi, à Tawa, la mère d'un élève accompagnée des membres de sa famille ont battu une enseignante à l'école Koweït 1 pour avoir puni le fils en classe. La scène s'est déroulée en présence du président du comité de gestion de l'établissement, Abdelkader Damalam, qui relate les faits au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
Il y a un élève qui a été corrigé par une enseignante. Il est allé raconter cela à sa mère. Sa mère est venue vers moi pour me dire qu'elle veut aller trouver l'enseignante à l'école. Je lui ai dit non, il ne faut pas qu'elle cause de troubles. Elle m'a rassuré qu'elle ne va pas se bagarrer. Nous sommes allés et il se trouvait que la directrice est absente. Je me suis dirigé vers l'enseignante de l'élève où je lui ai demandé pourquoi elle a commis cet acte. Elle m'expliqua qu'elle avait remis un livre à ses 3 élèves pour faire de la lecture. Au lieu de faire la lecture, ils se sont mis à s'amuser. Après 2 mises en garde, la troisième fois, je l'ai corrigée. Je lui ai rappelé, est-ce qu'elle se souvient de l'interdiction du châtiment corporel? Elle m'a répondu oui, elle le sait. Je lui ai dit, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Après notre départ, l'élève est retourné chez sa mère pour lui dire que madame lui demande de revenir à l'école. La dame s'est précipitée dans la salle de l'enseignante et nous avons entendu la dispute. Nous nous sommes rendus à la direction régionale où il nous a été indiqué que la maîtresse est évacuée à l'hôpital. Il y a eu plusieurs cas que nous sommes arrivés à solutionner. Mon appel est de dire aux parents, avant toute prise de décision, il faut qu'ils passent par le COGES.
Depuis 48 heures, certains quartiers de la ville d'Agadez manquent d'eau potable. C'est suite à une panne électrique survenue sur les installations de la production de Kourboubou. Ahmed Koussa, deuxième vice-maire de la commune urbaine d'Agadez, s'exprime au micro de Moussa Maman.
C'est vrai, nous souffrons du manque d'eau ces deux jours-là. C'est dû à une panne d'injecteurs au niveau de notre station de pompage de Kourboubou. Il y a un injecteur qui a grillé. Tous les agents de la Seine sont à pied d'œuvre pour au fait changer ce injecteur-là. Donc ça va prendre un ou deux jours, c'est vrai. Ce qui fait que cette situation perdure un peu. Et vous le savez, quand il faut changer, ça demande beaucoup de temps, de fois. Mais quand même, ils nous ont rassuré qu'ils ont 48 heures pour le faire. Sauf s'il y a d'autres choses qui interviennent là-dedans. J'attire l'attention de la population, de patienter un peu. Ce n'est pas un petit problème quand il s'agit de l'eau, c'est grand. Et nous sommes en train de nous donner à fond pour qu'on puisse rétablir l'eau.
Studio Kalangu
à Gaya, sur la radio Faraa, 90.3 MHz. À Tessawa, sur la radio Termamoa, 97.5 MHz. À Birinkoni, sur la radio Nia, 97.5 MHz. À Belleyara, sur la radio Dalol, 96 MHz.
Studio Kalangu.
Et maintenant, la partie magazine. La médecine traditionnelle est très utilisée au Niger. Elle est pratiquée par des guérisseurs traditionnels appelés tradipraticiens. Soumana Amadou s'est penché sur cette pratique ancestrale. Voici son reportage.
Selon les données du ministère de la Santé publique, au Niger, 60 à 80% des malades passent d'abord par cette médecine traditionnelle avant de se référer aux formations sanitaires publiques. Boubacar Ibrahim, originaire de Dogon Tapti, région de Dosso, est un tradipraticien installé à Niamey depuis 25 ans.
Bismillahirrahmanirrahim.
J'ai hérité ce métier. Mon père et mon grand-père l'ont déjà pratiqué. C'est à travers une décoction que nos grands-parents nous ont donnée que nous arrivons à les détecter facilement, qu'il s'agisse d'une maladie surnaturelle, de l'envoûtement ou d'autres maladies.
Elias Halidou, médecin de formation, a été soigné par le guérisseur Boubacar. Il avait des plaies à la main. Son témoignage.
J'ai mal à la main. La manière dont ça a commencé, vraiment, ça m'a fait beaucoup peur. J'ai fait au moins une semaine sans dormir, nuit et jour. C'est ça même qui m'a fait plus peur. Du coup, je n'ai même pas tenté avec l'hôpital. Je me suis rendu ici. Dès le premier jour, il a touché ma main, j'ai pu m'endormir. Et Dieu merci, aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà ma main.
Une division de la médecine traditionnelle a été créée au ministère de la Santé publique pour accompagner ces tradipraticiens. Docteur Sami Aïchatou Guerro Arzika, chef de cette division, explique.
Ces tradipraticiens ne travaillent pas comme ça. Ils doivent s'inscrire dans une association. Ils amènent leur dossier à la direction régionale de la Santé publique de là où ils vont travailler. Le DRSP donne son visa si le dossier est bon. Et il transmet au gouvernorat. C'est le gouverneur de la région en question qui donne l'autorisation d'exercer la médecine traditionnelle. On leur donne des formations sur les maladies courantes et qu'ils prennent en charge assez souvent. On leur dit les principaux symptômes, surtout leurs limites. La médecine traditionnelle n'est pas encore totalement intégrée dans le système de soins. Il y a certains médecins qui réfèrent les malades vers les tradipraticiens. Et les gens trouvent satisfaction à travers ces tradipraticiens de santé.
Docteur Sami a ajouté que, faute de moyens à la faculté des sciences, beaucoup de plantes médicinales restent toujours en instance de validation.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et dans un instant, place au Forum de la presse avec Alassane Kouzi Mahamadou.
Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.